Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jiggy da, kani jiggy mi senya, omanyi kobena.
It's okay, you know, it's okay.
C'est un bond de 50 ans en arrière que nous vous proposons cette semaine. Nous vous emmenons dans l'état de New York, sur les terres d'un agriculteur américain, Max Yasger, qui d'ailleurs aurait 100 ans cette année, et qui eut la bonne idée de louer son terrain à quatre jeunes entrepreneurs passionnés de musique pour l'organisation d'un festival qui devait durer 3 jours, mais en raison de l'affluence massive et de la désorganisation progressive, s'acheva à l'aube du 4e jour. Cet événement historique a marqué à jamais la génération hippie des années 60. Il s'agissait du festival de Woodstock.
Give me an F! Give me a U! Give me a C! Give me a K! What's that spell? What's that spell? What's that spell? What's that spell? What's that spell?
Well, come on, all of you big strong men. Uncle Sam needs your help again. Got himself in a terrible jam, way down yonder in Vietnam. Put down your books and pick up a gun. We're gonna have a whole lot of fun. And it's 1, 2, 3. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's 5, 6, 7. Open up the pearly gates. Well, there ain't no time to wonder why. Whoopee, we're all gonna die.
Du 15 au 18 août 1969, il y a donc 50 ans, 33 concerts, 33 groupes ou artistes solos viendront électriser une foule de jeunes insoumis venus clamer haut et fort leur désir de justice, de paix et d'amour universel face à une société adulte, aveugle et sourde à leurs aspirations. Il devait être 200 000 à taper du pied, chanter et s'adonner à toutes sortes de loisirs. Ils seront finalement 500 000. Cette marée humaine transformera cette grande messe pop-rock en une communion multicolore débridée, rythmée par des orages, des bains de boue, des prestations devenues légendaires et des appels au calme et à la retenue pour que l'esprit de liberté absolue accompagne en douceur ces 3 jours et demi de célébration musicale inédite.
And it's 1, 2, 3. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's 5, 6, 7. Open up the pearly gates. Well, ain't no time to wonder why. Whoopee, you all gonna die. Now come on, mothers throughout the land. Pack your boys off to Vietnam. Come on, fathers, don't hesitate. Send your sons off before it's too late. Be the first one on your block. Have your boy come home in a box. And it's 1, 2, 3. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's 5, 6, 7. Open up the pearly gates. Well, ain't no time to wonder why. Whoopee, we're all gonna die.
Ladies and gentlemen, Joe McDonald.
All right, everybody, just sit down. Wrap yourself up.
Avant que le festival de Woodstock ne devienne un joyeux n'importe quoi assez mal maîtrisé, il y eut l'intention citoyenne d'une jeune équipe ambitieuse, emmenée par le producteur Michael Lang, qui cherche alors des fonds pour créer son propre studio et se dit avec son ami Artie Kornfeld du label Capitol Records qu'une petite annonce dans le Wall Street Journal ou le New York Times pourrait susciter la curiosité. Avec l'aide de John Roberts et de Joel Rosenman, ils parviennent à former une équipe vaillante qui imagine très vite une manifestation publique durant laquelle les grandes figures de la pop musique de l'époque viendraient délivrer un message d'unité et de générosité. Finalement, le 15 août 1969, c'est un barde, un ménestrel qui inaugure seul à la guitare ce rendez-vous improbable de la jeunesse américaine. Il s'appelle Richie Evans.
Thank you.
Il y a quelques années, nous avions eu le bonheur de converser avec Richie Evans. Sans être nostalgique, il se plaisait à raconter sa fameuse prestation d'août 1969, quand malgré lui, il entra dans l'histoire.
What happened was, I went back out on stage six times.
Voilà ce qui s'est passé. Je suis revenu six fois de suite sur scène. Pour le dernier appel, je ne savais plus quoi jouer. J'avais chanté tout mon répertoire. La fameuse longue introduction de Freedom est en fait l'expression de mon embarras. Je me suis dit, cette célébration de la liberté est le point d'orgue d'une génération tout entière. J'ai donc improvisé Freedom, la liberté, inspiré de Motherless Child, un classique Negro Spirituals que je chantais quand j'étais gamin et qui m'est revenu à l'esprit ce jour-là. Je n'en revenais pas moi-même. Cette fulgurance musicale m'a permis de conclure mon concert au moment même où le groupe suivant arrivait sur place en hélicoptère. En d'autres mots, j'étais le seul artiste présent sur scène. Les autres musiciens à l'affiche de Woodstock étaient coincés à des kilomètres de là, tant la foule était compacte. J'ai dû embarquer dans l'hélicoptère d'un riche cultivateur pour pouvoir repartir sans problème. Je me souviens que Tim Hardin, le chanteur folk, était le seul musicien que j'ai croisé en coulisses. Et comme moi, il ne voulait pas passer en premier. Il refusait d'ouvrir le festival. C'était tellement impressionnant. Avant mon concert, je fuyais les organisateurs pour ne pas monter sur scène. Je voulais être programmé plus tard. J'étais terrorisé. Je suis finalement celui qui a inauguré le festival de Woodstock et j'ai joué pendant 2h45.
And it lasted till somebody else came to go on, you know, 2 hours and 45 minutes.
Clap your hands, 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 yeah, clap your hands.
I had no clue that that would happen.
Je ne me rendais pas compte de ce qui se passait vraiment. J'étais seulement heureux d'avoir quelque chose à exprimer. Et à aucun moment je n'ai oublié que j'étais sur scène pour célébrer la liberté. Mais quelle liberté ! Je n'ai jamais pensé écrire une autre chanson si forte sur ce thème. Parce que nous vivions intensément l'instant présent. Et nous désirons toujours cette liberté. Mais je le reconnais, il me faut parfois un peu de distance pour réaliser l'impact de ce festival légendaire sur notre quotidien. J'avais une idée de ce que cet événement représentait en 69. Mais son influence sur notre société actuelle me dépasse. J'avais une lecture assez précise de l'instant et j'étais émerveillé. Je me souviens de chaque mot que j'ai prononcé sur scène. De toute façon, j'entends instantanément dans mon esprit les mélodies qui accompagnent les textes de mes chansons. Je ne cherche jamais à composer. Ce sont les mots qui dictent les mélodies. Je prends ma guitare et je me laisse porter par l'inspiration du moment.
Haven. What better way to start than with the beautiful Richie Haven?
Cette chanson, Freedom, totalement improvisée sur l'instant, a fait la renommée de Richie Evans. Nous aurions pu penser qu'évoquer ce titre une nouvelle fois à notre micro finisse par le lasser, mais finalement, pas du tout. Il y a tellement de gens qui m'interrogent sur cette prestation et j'aurais mauvaise grâce de ne pas leur répondre et de ne pas leur dire combien le monde évoluait radicalement à l'époque. Et puis, quel privilège de recevoir les questions de gens intéressés par votre destinée. Je me dois de leur donner des réponses. Cette chanson, Freedom, que j'ai interprétée en 1969 sur scène, je continue de la chanter à chacun de mes concerts. Une seule fois, je fus interrompu après 40 minutes de show. Cela se passait sur le campus d'une université aux États-Unis. J'ai donc chanté Freedom sur le parking, devant l'établissement, pour les quelques étudiants qui voulaient entendre cette mélodie. Je n'ai jamais cherché à me débarrasser de ce standard parce que c'est un honneur de pouvoir rencontrer son public grâce à une seule chanson. Je peux ainsi répondre aux questions que l'on me pose et converser avec des gens curieux de connaître une part de mon histoire. N'oublions pas qu'il représente le lien entre le passé et le présent. Il ne m'interroge pas pour rien. Il y a toujours une bonne raison.
Tell them a little bit of what I call near past history. They're asking for something.
Hey, look beyond, tell me what's that you see. Marching to the fields of Concord. Looks like handsome Johnny with his flintlock in his hand. Marching to the Concord War. Hey, marching to the Concord War.
Richie Evans était un personnage fort attachant qui acceptait volontiers de nous conter son épopée à Woodstock, même s'il avait dû la narrer maintes fois à des dizaines de journalistes. Ainsi, lorsqu'il s'épancha une nouvelle fois pour nous sur cet épisode fugace de sa vie finalement, il prit le temps de nous expliquer comment l'art de l'improvisation l'avait finalement bien soutenu lors de ce concert d'ouverture de Woodstock le 15 août 1969. Vous savez, j'ai eu la chance d'apprendre mon métier en jouant dans les bars. J'étais là chaque nuit, je donnais trois concerts par-ci, trois concerts par-là. Il m'arrivait de me produire 10 à 12 fois par nuit pour gagner ma vie. Je me forgeais ma propre expérience tout en expérimentant mon jeu sur scène. J'apprenais à la fois sur moi et sur le public. Ce fut un privilège, un luxe de progresser de cette façon. J'étais prêt pour toutes les situations. Rendez-vous compte, le 15 août 1969, j'étais à Woodstock devant 500 000 personnes. Et le lendemain, dans une université de l'Illinois, devant 50 personnes. Quel contraste et quel souvenir! Ce fut d'ailleurs un véritable périple pour se rendre sur place. Les forces de police avaient fermé l'autoroute. Nous sommes donc restés coincés dans les bouchons. Plus personne ne pouvait bouger. Résultat, pendant trois jours, des milliers de jeunes ont attendu patiemment que la circulation reprenne et ont improvisé une joyeuse kermesse au beau milieu de nulle part. Entre-temps, les journaux avaient évoqué Woodstock dans leurs colonnes et notamment le fameux balai des hélicoptères au-dessus du festival. Et croyez-le ou non, c'est à nouveau un hélicoptère qui nous a délivré de la cohue sur l'autoroute. Incroyable! J'avais pris deux fois l'hélico en l'espace de 48 heures.
They can't get there because their cars are parked 30 miles off of the road that it's supposed to go to. My second ride in helicopter in my life. It's amazing.
Quand Richie Evans quitta la scène, 30 autres artistes se préparaient à entrer dans la danse. Certaines performances furent époustouflantes. Carlos Santana, Joe Cocker, Les Who, Janis Joplin ou Sly and the Family Stone. Trois jours, la frénésie musicale de Woodstock donnera des ailes à certains artistes. Le groupe britannique Ten Years After, dont la carrière peinait à décoller, ressortira grandi de cette expérience de scène totalement unique. Leur version du classique I'm Going Home restera l'un des moments forts du festival de Woodstock. Ce blues détonnant a marqué les esprits au fil des décennies. Son auteur, le guitariste Alvin Lee, leader de Ten Years After, ne voulait pas en faire un hymne. Peu avant sa disparition en 2013, il le répétait à notre micro. La nostalgie, ce n'était pas pour lui, même si son groupe était désormais perçu comme l'une des figures majeures du festival de Woodstock.
That is the case, obviously, to some degree, but that's not really what we want to emphasize.
C'est sûr, mais ce n'est pas ce que nous voulons faire ressortir. Nous voulons maintenant être vus comme un groupe d'aujourd'hui et nous voulons progresser sans cesse. Nous avons toujours essayé d'éviter de susciter la nostalgie. Nous ne cherchons pas à recréer Woodstock. On nous a trop souvent proposé de participer à des festivals type Woodstock et nous avons toujours refusé. C'est certain, nous avons passé de bons moments, mais il faut savoir aller de l'avant.
so long ago now.
C'est une autre époque pour nous, ça commence vraiment à dater. Je ne pense pas que l'on puisse baser une carrière sur la présence d'un groupe durant 4 ou 5 heures sur une scène d'un festival qui a eu lieu il y a des lustres. Il ne faut pas vivre sur une gloire passée. C'est à nous de prouver que nous sommes capables de vivre aujourd'hui, que nous avons toujours des choses à dire, plutôt que de revenir sans cesse sur ce que nous avons dit en 1969. Nous nous adressons maintenant à un nouveau public, à des jeunes de 15-25 ans, à une autre génération. Nous ne jouons plus uniquement pour les vieux hippies, si l'on existe encore. De toute façon, ce ne sont pas ceux-là qui viennent au devant de la scène aujourd'hui. Ils restent bien sagement au fond de la salle pour laisser place aux vrais fans de rock'n'roll.
Tous ceux qui eurent la chance de vivre de près ou de loin cette époque de rébellion pacifique se souviennent parfaitement des slogans, de la naïveté de ces jeunes effrontés pensant bousculer l'administration américaine à coups de riffs de guitare, de chants partisans et de poèmes folk. La pianiste Amina Claudine Myers avait 27 ans en 1969. Elle fait partie de cette génération attachée aux valeurs humaines, au dialogue et au partage. Elle garde en elle aujourd'hui à 77 ans l'humeur insouciante de l'époque.
C'est sûrement l'époque à laquelle la musique était la plus vibrante et excitante. Il y avait tant de liberté et d'amour entre les peuples, tant de partage, de chaleur, de bons sentiments. La guerre du Vietnam touchait à sa fin. C'était une atmosphère particulière que nous ne revivrons jamais. Le slogan « Peace and Love » disait tant de choses. Quand les années 70 sont arrivées, l'ambiance générale a changé. C'était la fin d'une ère de joie et de sérénité.
Peut-être avez-vous reconnu le son de cette guitare. Il s'agit de la Fender Stratocaster d'un certain Jimi Hendrix. Au petit matin du 18 août 1969, il ne reste plus que 30 000 personnes dans les champs boueux et dévastés de Woodstock. Alors que la torpeur des derniers fans irréductibles semble annoncer la fin des festivités, le fameux guitariste fait subitement hurler ses notes virtuoses dans un cri de colère contre la guerre du Vietnam. Il détourne l'hymne américain qu'il noie dans un océan de saturation mélodique. Jimi Hendrix défie l'Amérique en imitant le son des bombes au napalm sur le Vietnam. Ce dernier acte du festival de Woodstock sera le plus cinglant et la jeune Amina Claudine Myers applaudira avec ferveur la témérité artistique et politique de ce personnage hors norme.
Il avait quelque chose de particulier. Le son de sa guitare était différent. C'était un être à part. Je le compare à Coltrane parmi les vrais révolutionnaires. On en rencontre deux ou trois dans une vie. Jimi Hendrix était vraiment une icône à cette époque. Dans le jazz, je dirais que Miles Davis a eu le même impact culturel. J'essaie d'imaginer qui, aujourd'hui, pourrait atteindre ce niveau d'excellence, s'imposer comme une figure majeure. Jimi Hendrix a tout de même réussi à transcender les générations et les genres musicaux. Les amateurs de jazz, de funk et de rock appréciaient Jimi Hendrix. Qui, aujourd'hui, peut avoir une telle influence sur le public? Bob Marley avait également cette stature de guide spirituel et musical, c'est-à-dire le pouvoir de toucher tout type de gens, quel que soit leur âge, leur nationalité, leur religion ou la couleur de leur peau. Nous avons donc eu Bob Marley, Jimi Hendrix, qui de surcroît était un bel homme et savait vraiment jouer de la guitare. Les hommes et femmes l'adoraient. C'est le signe d'un artiste universel. Charlie Parker était aussi un grand personnage, mais il n'avait pas cette aura qu'avait par exemple Miles Davis. Miles fascinait par son allure, son look. Il avait ce petit quelque chose qui fait la différence.
On sait aujourd'hui que Jimi Hendrix et Miles Davis ont bien failli enregistrer un disque ensemble avec Tony Williams à la batterie et l'éventualité d'un certain Paul McCartney à la basse qui déclinera l'invitation par un télégramme signé de son agent, Pete Brown. Mais on se plaît à imaginer une telle rencontre de véritables icônes blues et jazz. Il n'en existe pas beaucoup de cette stature. Même Sonny Rollins, pourtant célébré comme un géant du jazz, n'est pas de taille face à Miles et Jimmy. C'est en tout cas le sentiment de la pianiste Amina Claudine Myers.
I mean, all due respect to Sonny, people don't know Sonny Rollins like they knew Jimi Hendrix or like they knew Miles.
Avec tout le respect que je dois à Sonny Rollins, il n'est pas aussi connu que Jimi Hendrix ou Miles Davis. Jimi Hendrix a dépassé les limites de son art. Sonny Rollins n'a jamais été aussi loin. Ceux qui s'intéressent au jazz connaissent parfaitement Sonny Rollins, mais le grand public connaît davantage Jimi Hendrix. Même les rappeurs connaissent mieux Jimi Hendrix que Sonny Rollins. Je ne vous parle pas ici de musique, mais de la personnalité de ces grandes légendes d'antan. Je n'abaisse pas la valeur artistique de Sonny Rollins en disant ça. Je ne compare même pas sa musique à d'autres. Je dis juste que Jimi Hendrix avait une image qui fédérait tout type de public. Sonny Rollins n'a pas cette qualité-là.
Il y a 50 ans, un festival imaginé par quatre jeunes idéalistes américains créait une onde de choc social, politique et culturel impressionnante aux États-Unis. À tel point que 3 ans plus tard, le label Stax Records inventa le Woodstock noir à Los Angeles. Ce sera Woodstax, un festival qui réunira les Staple Singers, Albert King, Eddie Floyd, Carla et Rufus Thomas, Kim Weston, les Barclays et le Moïse Noir.
We can make the dream right now. The brother that all of us have been waiting for. The brother that all of us have been waiting for. The one we've been waiting for. A bad, bad brother. Isaac Hayes. Yeah, yeah, yeah.
Quelques notes de Shaft par Isaac Hayes. Le Woodstock de 1972 aura les mêmes vertus que le Woodstock de 1969. Il appellera à la justice sociale, à l'égalité de droit entre tous les Américains et réunira tout de même 112 000 spectateurs. Beaucoup plus tard, d'autres grands rassemblements portés par un idéal humaniste eurent lieu à travers la planète. Rumble in the Jungle en 1974 à Kinshasa pour affirmer la fierté de la diaspora noire dans le monde. Le Live Aid à Londres et Philadelphie en 1985 pour contrer la famine en Éthiopie. Les artistes contre l'apartheid à Wembley en 1988 pour la libération de Nelson Mandela, etc., etc. Mais il faut reconnaître que le festival de Woodstock a eu un impact majeur sur les consciences à l'époque et continue de porter ses fruits aujourd'hui. Je vous conseille d'ailleurs, pour en savoir plus, de vous procurer l'excellent ouvrage de mon confrère Mishka Sayas, paru chez GM Éditions, qui narre dans le détail cette aventure humaine et musicale unique, avec une centaine de photos rares ou inédites et une sélection d'albums suggérés pour entrer dans la discothèque idéale de ces années d'innocence et de prise de conscience. Un livre de 168 pages passionnant, comme vous l'aurez compris. Par ailleurs, un gigantesque coffret de 38 CD proposant l'intégralité du festival de Woodstock, plus un Blu-ray du film tourné à l'époque, plus un livre signé Michael Lang, l'instigateur de cet événement, plus le programme imprimé original, des posters, etc., etc. Ce coffret est disponible à la vente depuis le 2 août. Il existe aussi des versions moins onéreuses, en coffret 10 CD, ou 5 disques vinyle, ou encore la compilation 3 CD. Le tout chez Reno Records. C'est ainsi que s'achève cette évocation d'un moment désormais figé dans l'histoire, mais dès la semaine prochaine, nous continuerons à nous intéresser aux grandes commémorations de 2019. Nous saluerons notamment la mémoire du chanteur, poète, auteur, compositeur et producteur américain Curtis Mayfield, qui nous a quittés il y a 20 ans, en 1999, à seulement 57 ans. Merci à notre hippie de RFI, Nathalie, qui réalisait cette émission avec application. Si vous êtes à Paris en cet été caniculaire, allez donc respirer le bon air frais du Baiser Salé qui propose jusqu'au 2 septembre ses estivales de jam. En d'autres mots, des jam sessions sur des répertoires bien connus. Par exemple, ces prochains jours, le percussionniste François Constantin et ses musiciens rendront hommage à Oscar Peterson, Michel Camilo, Kenny Garrett, Michael Brecker, Ray Barreto, Ras Silver ou aux Meters de la Nouvelle-Orléans. Je vous rappelle que le Baiser Salé se trouve 58 rue des Lombards à Paris dans le 1er arrondissement. Par ailleurs, le festival Jazz à la Villette débute le 29 août, toujours à Paris, avec au programme Marcus Miller, Joshua Redman, Oumou Sangaré, Cheikh Tidiane Seck qui rendra hommage à Randy Weston en compagnie d'Archie Shepp. Il y aura aussi un hommage à Errol Garner par le pianiste Christian Sands et un salut confraternel à Aretha Franklin par Betty Lavette, José James, Alice Russell, Nona Hendrix et Zara McFarlane. Bref, du beau monde, Jazz à la Villette, c'est du 29 août au 10 septembre à Paris dans le 19e. C'est tout pour aujourd'hui, passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours, dans 30 secondes, le journal.